Mesdames et messieurs, il y a encore deux conférences de ce soir. La première conférence est celle de notre collègue André Lemaire. André Lemaire est professeur émérite de l'École pratique des hautes études ici à Paris et il est le plus grand spécialiste des inscriptions nord-ouest sémitiques du 1er millénaire avant le Christ. Et maintenant, il parle sur la stèle de Mécha, problèmes épigraphiques, philologiques et chronologiques.
Bon, alors, donc, j'espère que tout le monde a deux pages qui vous aideront peut-être à suivre avec, d'une part, la transcription du texte et, d'autre part, un essai de traduction. La première partie de mon propos va être un peu technique et, d'ailleurs, aurait pu se passer, j'allais dire, dans l'autre salle, là où il y a l'exposition, si vous n'aviez pas été aussi nombreux. Mais c'est difficile de faire autrement aujourd'hui. 150 ans après sa découverte, la stèle de Mécha reste l'un des monuments les plus importants de l'épigraphie nord-ouest sémitique et probablement celui qui éclaire le plus la Bible hébraïque. C'est aussi un des plus étudiés. Dès 1919, la bibliographie de Sidersky ne comptait pas moins de 33 pages et 262 numéros. Alors, je n'ai pas essayé de la poursuivre jusqu'à aujourd'hui parce que ça ferait plus de centaines de pages. Paradoxalement, ce monument, un des plus célèbres du musée du Louvre, n'a toujours pas ce qu'on appelle en jargon technique d'épigraphiste d'édition princeps, d'édition synthétique qui présente tout avec toute la justification, etc. Cette édition princeps avait pourtant été annoncée par Charles Clermont-Ganneau, qui devait même remettre son manuscrit à la maison d'édition parisienne Ernest Leroux, je cite une lettre, dans le courant de l'année 1881. On est un petit peu en retard. Cependant, dès 1970, vous avez ici une photo de Clermont-Ganneau en 1970 à Jérusalem. Dès 1970, il en avait présenté une publication très préliminaire, mais assez détaillée, suivie surtout de trois articles parus en 1875 et 1887. Et il était facile pour n'importe quel spécialiste d'examiner la stèle et son estampage exposé au musée du Louvre. Je ne prétendrai pas faire ici une étude exhaustive qui prendrait plusieurs jours. Mais je voudrais surtout présenter ici quelques problèmes épigraphiques, philologiques et chronologiques de cette inscription et pour la partie proprement de lecture en commençant par les premières lignes. Plusieurs problèmes de lecture proviennent du fait que la stèle était déjà incomplète et en partie abîmée, en particulier dans sa partie gauche, c'est-à-dire la fin des lignes. Selon Clermont-Ganneau, je cite, « Le gros bloc supérieur a de plus été martelé. » Enfin, Clermont-Ganneau n'a pas réussi à récupérer tous les fragments, et l'estampage et partie originelle, que vous pouvez voir de l'autre côté de ces murs, manque toujours de clarté, sauf quand on met la lumière par transparence. Même avec cela, il reste difficile. Commençons par la ligne 1. Le nom du père de Mécha est incomplet. On lit bien Kamosh, puis ensuite il y a une fracture, l'espace de deux lettres. Comme vous le voyez, à la suite de Clermont-Ganneau, la reconstitution a mis Gad, parce qu'il connaissait un sceau où il y avait cet élément théophore dans l'onomastique. Cette lecture a souvent été reprise, et même maintenant, donc on peut la voir encore aujourd'hui. Cependant, en 1912, René Dussault, qu'on a mentionné tout à l'heure, mettait clairement ces deux lettres entre crochets et notait, je cite, « restitution douteuse ». Et en fait, en 1958, la récupération d'un fragment de stèle monumentale trouvé à Kerak semble indiquer que le nom du père de Mécha, précédant le syntagme Malk ou Melek Moab, comme dans la selle de Mécha, est plutôt Kamoshit ou Kamoshiat. Il faut donc très probablement restituer Yud en Tav et non pas Gimel et Dalet, comme c'est fait dans la selle encore actuellement. Et la restitution Yud-Tav est généralement acceptée aujourd'hui, même s'il y a une petite divergence entre les commentateurs pour vocaliser cette finale onomastique difficile à expliquer. Beaucoup vocalisent Yat en pensant plus ou moins au verbe Yaton, ou alors à un nom Yotet qui est attesté dans la Bible, mais cependant, en pensant surtout que le yod est sûrement consonantique, mais là, je dirais, je serais beaucoup plus prudent, parce que le présupposé d'une inscription purement consonantique ne tient pas aujourd'hui, ni même déjà dès le début, au vu de l'alternance dans la stèle entre Bebeto et Bebeto, une fois écrit avec yod, une fois écrit sans yod. Ligne 7 et ligne 25. Comme l'avait déjà bien vu à nouveau René Dussault, l'orthographe de la stèle n'est pas aussi absolument défective qu'on l'a dit. Et ça a été reconnu ensuite en partie par Shmuel Aritouv. Dans ces conditions, une vocalisation « it » est au moins aussi vraisemblable et on peut comparer « kemoshit » à l'ammonite « milkomit » et retrouver là la finale onomastique ouest-sémitique « it » attesté aussi en hébreu, avec un nom tel que Shlomit. Passons à la ligne 3. La lecture de la fin de la ligne 3 est incertaine. À l'examen de l'estampage, il y a le... C'est le pointeur ? Comment marche-t-il ? Voilà. C'est le centre, c'est au centre. Ici, vous avez le « e », une lettre difficile, le « lamed », le « kaf ». Donc, et tout le monde est d'accord pour la lecture, pratiquement, sauf que la deuxième lettre est quand même difficile, elle pose un problème. On a hésité paléographiquement entre un shin et un mime. Mais quand on regarde de près, on s'aperçoit, spécialement aussi en utilisant l'estampage, mais que vous avez du mal un petit peu à identifier, ça va venir avec un peu d'exercice. Vous avez le « et » là, la lettre suivante est là, le « lamed » et le « kaf » qui est là. Et la difficulté, donc, c'est la deuxième. D'un côté, on a une tête qui ressemble à un mime, avec une tête inclinée et assez petite par rapport à un shin, trop petite pour un shin et inclinée, trop inclinée pour un shin, mais il n'y a pas la queue d'un mème. Et donc, certaines transcriptions, on a encore même dans des classiques, dans des manuels classiques d'épigraphie, on a parfois transcrit shin en traduisant shlachin, ou je ne sais pas, peu importe la vocalisation, les agresseurs. Mais dans le contexte, tout le monde est quand même d'accord que Amelarim, les rois, c'est beaucoup plus vraisemblable. Donc, en fait, ce qui a pu se passer, c'est un problème classique en épigraphie, c'est que le lapicide n'a pas gravé toute la lettre, il a gravé la tête et puis il a oublié de graver la queue. Au moins, c'est l'interprétation que je propose. Autre petit problème épigraphique, à la fin de la ligne 6, l'estampage est assez clair, après, vers le milieu, là, vous avez le début d'une lettre que tout le monde interprète comme un kaf. Et ensuite, il y a la place pour une lettre dans la lacune. Ça, c'est le problème des épigraphiques bien connus, des lacunes. Et il n'y a qu'une lettre, c'est assez clair. Jusqu'à maintenant, on a restitué généralement un nun, parce que ça semblait assez bien aller dans le contexte. Et il a parlé ainsi, ken. Seulement, lorsqu'on regarde du point de vue philologique, on s'aperçoit qu'en hébreu et aussi en araméen, on a deux particules qui veulent dire ainsi, on a « ken » et « ko ». Et « ko » est utilisé généralement avec le verbe « dire »,« amar ». La formule bien connue dans la Bible, « ko amar Yahvé », la formule d'oracle prophétique. Et donc, plutôt que « ken » à la fin, à mon avis, il faut plutôt traduire « ko », « kaf » et « e ». Autre petit problème un peu plus compliqué, à la ligne 8, le milieu de cette ligne 8, donc ici, c'est un passage qui a été traduit généralement « Omri », qui est sujet antérieur, et il a habité durant ses jours, et durant mes jours, et la moitié de ses jours, des jours de son fils et ses fils, 40 ans. Seulement, cette lecture-là, avec cette construction de phrase-là, pose un gros problème d'interprétation, et on s'est disputé, il y a des tas d'articles sur le problème des 40 ans dans la Bible. Je ne vais pas entrer dans le détail. En fait, je crois que Siegfried Mittmann, dans l'année 2002, a bien publié un article qui est convaincant, à mon avis, pour dire que Yud, même Yud, que l'on traduit par mes jours avant cette ligne-là et après cette ligne-là, doit aussi être traduit mes jours. Et donc, c'est en référence au jour de règne de Mécha lui-même qu'il faut comprendre toute la phrase. Autre petit problème, la fin de la ligne 11. Vous voyez que nous rentrons dans le... Ça, c'est le début de la ligne... Et le début de la ligne 12 a longtemps posé un double problème, à la fois paléographique et philologique. Pourquoi ? Eh bien, parce que, comme vous le voyez facilement, il y a à Kar ou à Kir, la ville, puis ensuite, on a clairement un reste de lettres, un yod et un tal. Tout le monde est d'accord. Depuis Clermont-Ganneau, la lettre du milieu, là, avec la hampe très droite, avait été lue un rech. Vous voyez que ce n'est pas évident. Mais en regardant de plus près, je me suis rendu compte, et surtout en travaillant avec l'estampage, que non, la première lettre est probablement plutôt un E qu'un rech. Et il y a eu des tas d'articles sur le mot que l'on avait créé artificiellement, riyat, on ne savait pas trop bien ce que c'était, puisque c'était un mot qui n'était jamais attesté jusqu'ici, donc beaucoup de spéculations à ce sujet, alors qu'avec un « et », ça donne un sens tout à fait limpide à toute la phrase, « et la ville appartient à Kamosh », etc. Donc, cette lecture a été un moment mise en doute par Aaron Schade, qui a dit, voilà, moi j'ai vu un estampage, et qu'est-ce que je lis ? Je lis, je pense que la lecture de Clermont-Ganneau est vérifiée. Pourquoi ? Parce qu'il y a un rech là. Alors, effectivement, ça ressemble un petit peu à un rech. Seulement, il ne s'est pas rendu compte que ces traces, alors c'est la difficulté de travailler avec l'estampage, où il y a des traces un petit peu dans tous les sens, il y a une histoire très mouvementée qu'on a évoquée tout à l'heure, et... si on lisait un rech là, eh bien ce rech ne serait pas sur la ligne de l'écriture. Vous voyez que là, il y a le reste du yod, que là, il y a le reste du tav, et donc là, en regardant bien, vous voyez qu'il y a les restes de la hampe d'un E, puis les restes de deux traits parallèles inférieurs, puis un tout petit peu du troisième trait parallèle du E. Donc, paléographiquement, le rech n'est pas à sa place, il est exclu comme lecture. Par contre, un « et » est très vraisemblable et le contexte rend cette lecture tout à fait classique maintenant. À la ligne 12, on a une expression alors, qui a fait beaucoup discuter, qui a entraîné beaucoup de discussions, « Ariel, Dawidé, Dawido, Dodo, etc. » Alors, je ne rentrerai pas dans cette discussion parce que peut-être que la prochaine conférence va l'aborder, mais sachez que là, la lecture est claire, tout le monde est d'accord, mais l'interprétation, elle, pose des tas de problèmes. Donc, ça nous permet d'aller plus vite et on a beaucoup de choses à voir. La fin de la ligne 16... et le début de la ligne 17 sont aussi difficiles à lire. Elles posent un problème de restitution et un autre d'interprétation. Alors là, la restitution est un petit peu forcée, mais même dans la restitution qui a été faite ici, vous voyez cette partie-là est pratiquement non restituée. Clermont-Ganneau n'a pas réussi à lire quelque chose. Alors on a appris ça les Guevarote, et donc à partir de cela, on a restitué Guevarine avant, puis ensuite Guérine, parce qu'on a Guérote au début de la ligne 12. Donc on peut proposer des restitutions, mais qui restent de toute façon quand même un petit peu aléatoires. Ce qui entraîne quand même un double problème, d'une part, c'est que Guérine et Guérote, qu'est-ce que ça signifie? Il y a deux interprétations, soit à partir de l'hébreu « guerre », c'est-à-dire l'étranger résident, temporaire, etc., soit « gour », avec le sens de « petit », désignant les petits-enfants ou les petites-filles, Guérine et Guérote, Gourine et Gourote. Et simplement, du point de vue épigraphique, cette dernière interprétation peut être rapprochée de l'inscription de Kition, CIS 1, 86, où on a Gourim, jeune garçon, et on a Gourat, jeune fille, dans l'inscription 37 de Ratra. Donc, du point de vue épigraphique, moi, je serais plutôt en faveur de la traduction jeune garçon ou jeune fille, enfin, ou petit garçon ou petite fille, comme vous voulez. Il y a un autre problème pour le comprendre, qui a été assez discuté, c'est le problème des Raramot, ici, au début de la ligne 12, à la fin de la liste. Alors, c'est un apax, bien sûr, en Moabite. On l'a reproché d'un apax dans l'hébreu biblique, dans Juges 5, 30, où on traduit souvent concubine ou fille servante. D'ailleurs, à mon avis, une traduction qui serait à discuter. Mais on comprend au moins que ça, là, dans la liste, ça désigne, j'allais dire, le dernier groupe auquel, j'allais dire, on ne s'attendrait pas dans la liste normale. Alors, pourquoi les Raramot? Eh bien, lorsqu'on regarde de près, à mon avis, c'est assez clair que la racine Raram désigne le sein d'une femme, les entrailles d'une femme, et c'est, donc ça veut dire les femmes enceintes. C'est un verbe dénominatif, donc les femmes enceintes. Et la mention dans un massacre pour un rérem des femmes enceintes, j'allais dire malheureusement, c'est quelque chose de classique à cette époque-là. Vous pouvez regarder, outre les parallèles assyriens, eh bien, vous les avez dans le 2 Rois, chapitre 8, verset 12, chapitre 15, verset 16, dans Osée, chapitre 14, verset 1, c'est le massacre de tout le monde, y compris les femmes enceintes. Alors, c'est un topos littéraire, comme on dit dans notre jargon d'analyse littéraire. Alors, vers le milieu de la ligne 17, un petit peu après, mais là, je n'insisterai pas, parce que justement, ça va être repris tout à l'heure, justement, le Rerem est le Ashtar Kamos. Alors ça, je laisse ça à la communication suivante. C'est aussi quelque chose qui a été très discuté, parce que Ashtar peut avoir au moins quatre sens différents dans le contexte. À la fin de la ligne 17, il y a un petit problème. C'est le problème de restitution, mais vous voyez qu'il y a des lacunes à la fin de la ligne 17, et on arrive à lire à peu près l'Amed Yod, tout le monde est d'accord pour la fin de la ligne 10, pour le début de la ligne 18, l'Amed Yod, mais ensuite la première lettre, d'ailleurs, est mal présentée ici, déjà dans Clermont-Ganneau, mais après le Wav, il y a les restes d'un Aleph. Peut-être qu'on le voit un petit peu mieux. Pardon, pas le bon bouton. Un petit peu mieux, c'est pas sûr. Là. Bon, vous avez les Raramot qui sont là, et là, il y a les restes plus ou moins de, après le Wav d'un Aleph. Et alors ensuite, il y a la place pour deux lettres. Tout le monde est d'accord, il y a la place pour deux lettres. Et généralement, on restitue être que les. Les kaf, non, tav et kaf, qui désignent la vaisselle, si je puis dire, les outils, ou la vaisselle ou les outils de Yahvé, puisque le mot Yahvé apparaît ensuite. Mais c'est pas là encore, en revoyant un petit peu les commentaires, en particulier le commentaire d'un excellent épigraphiste, Marc Libarski. Et je cite, lui, il a décerné, après le Aleph, la partie inférieure d'une hampe verticale, ce qui correspond plutôt à un rech, proposé d'ailleurs déjà par Smet et Sosin. Donc, on doit probablement plutôt, mais ce n'est pas dans le domaine de la certitude, restituer Ar-Eli, Ar-El, comme on a Ar-El un peu plus tôt, précédé de Dodo ou Davido. Un autre mot qui a fait difficulté, mais là, j'insisterai pas trop, c'est le mot écrit là au milieu de la photo, Resh, Shin, et, que l'on traduit soit ses chefs, soit en tout, soit ses pauvres, même si personnellement je préfère un peu la traduction ses pauvres à cause de certains parallèles, il faut bien dire que pour l'instant on n'est pas tout à fait sûr du sens du mot dans le contexte. Un autre problème pratique, lui, qui peut être facilement résolu, c'est à la fin de la ligne 23, vous voyez qu'il y a une grosse lacune, là, entre ici et là. Donc, Yod, Nun, à la fin, tout le monde est d'accord. Et avant, on a la mention de « à échouar », le « ret » est restitué, mais comme le mot est attesté ailleurs dans l'inscription, tout le monde est à peu près d'accord, ça désigne probablement un réservoir, j'allais dire, communal, en quelque sorte, ou urbain, ou citadin. Et ce qui est, il y a deux, quand il y a une lacune, comment la remplir? Eh bien, il y a deux propositions principales, c'est soit de dire qu'il faut mettre trois lettres avec, après le ret, lamed, mem, ayin, soit simplement ret, let, ret, let, lamed, mem. Ça veut dire soit le réservoir pour la source, soit le réservoir pour l'eau. Alors, il y a deux manières de résoudre le problème. Eh bien, d'une part, c'est de compter, bien compter l'espace qu'il y a de libre entre les deux. Et là, on s'aperçoit que la restitution réservoir pour la source est trop longue. Ça ne tient pas. Et d'autre part, du point de vue archéologique, mais on aura peut-être des indications archéologiques après, au moins jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de source à Diban. Donc, du coup, ça poserait un petit problème d'interprétation. Tandis que la restitution simplement réservoir pour l'eau, que même si elle paraît presque une lapalissade, est tout à fait normale et ne pose aucun problème. Bon, c'est simplement pour vous montrer quelques-uns de la manière dont on peut résoudre certains problèmes. Parfois, on peut les résoudre assez facilement. D'autres fois, c'est moins clair. J'en arrive vers la fin de l'inscription à la ligne 30. La ligne 30 qui est au milieu ici. Oui, vous voyez, au début, il y a une grosse lacune. Puis ensuite, on a la mention du temple, etc., avec des toponymes. Et avant, on a la mention d'un Aleph, assez clair. Et dans la liste des toponymes, tout le monde est pratiquement d'accord pour dire, eh bien, il y a des restes aussi avant le Aleph, peut-être des restes d'un bête, mais ce n'est pas tout à fait évident. Et on propose à ce moment-là de restituer Ma'adaba, la ville qui est mentionnée d'ailleurs ailleurs dans la stèle. Il reste alors, si on fait cette restitution, il reste seulement deux lettres, et la restitution normale, c'est de restituer Beth Tav, comme on l'a avant les deux autres toponymes qui suivent. Ce n'est pas une restitution certaine, mais c'est une restitution tout à fait logique. Et on a à ce moment-là une information intéressante, parce que ça nous indique que Mécha a fait construire un temple dans chacune de ces trois villes qui sont mentionnées. Alors, au début de la ligne 31, la restitution d'une longue lacune d'environ 8 lettres ne peut être que conjecturale, donc je ne l'aborderai pas ici. Ah, j'arrive à un point qui a suscité beaucoup de commentaires, c'est à la fin de la ligne 31. À la fin de la ligne 31, après Yashav Bo, donc Yod, Shin, Bet, point de séparation, Bet et, on reconnaît assez clairement, alors là, tout à fait, vu quand on a l'habitude, c'est tout à fait clair, voilà le Bet, là le Bet est tout à fait clair. Tout le monde est d'accord sur cette lecture Bet. De même que tout le monde est d'accord parmi les épigraphistes qui ont travaillé sur la lecture d'un Wav ici. Le problème, c'est entre les deux. Il y a l'espace pour deux lettres, que faut-il lire? Et puis ensuite, le deuxième problème, ça sera d'identifier cette lettre qui est là. premier problème, quelle est la lettre qui suit? Eh bien, si vous regardez attentivement, on a peut-être ici les restes un petit peu d'une partie d'un TAV qui se présente un petit peu comme une croix Saint-André, comme un X aujourd'hui. Et pour renforcer cette idée que c'est probablement un TAV, en fait, ce TAV a déjà été proposé d'abord d'une part par Claire Mangano, mais aussi par Marc Lisbarski, qui a clairement non seulement vu les restes d'un TAV, mais vous voyez qu'il a même dessiné ce qu'il a vu. Voilà ce qu'il en reste. L'autre partie étant dans la lacune. Donc, la lecture d'un TAV n'est pas absolument claire, j'allais dire évidente, mais suffisamment raisonnable pour qu'on puisse la présenter. Ensuite, le deuxième problème, donc, c'est de la lettre qui suit le WAV, après le WAV. Après le WAV, vous voyez là, le facsimilé qui avait été fait et qui se trouve dans le handbook de Lisbarski. Paradoxalement, après avoir lu un Dalet, on voit très bien qu'il a lu un Dalet, et d'ailleurs, dans sa transcription, il a lu un Dalet, mais ensuite, il a, dans ses éphéméris, il a dit, eh bien non, c'est peut-être pas... il n'a pas dit que ce n'était pas un Dalet, mais il n'y a pas songé, il n'a même pas mentionné la lecture Dalet qu'il avait indiquée dans son handbook et qu'il avait dessinée dans ses planches. Et il a voulu voir, au lieu de voir un Dalet, de voir un Kof. Et là, j'allais dire, moi j'avoue que je n'ai pas compris Lisbarski, qui a peut-être oublié que c'était assez évidemment ce qu'il avait proposé d'abord, un Dalet. Alors, pour vous essayer de vous convaincre, eh bien, vous avez ce qui reste de sa tête. La lettre n'est pas tout à fait complète, mais il en reste suffisamment pour dire que c'est sûrement un Dalet, ça ne peut pas être une autre lettre. Donc, on arrive à ce moment-là à la lecture, où on a quatre lettres lisibles, enfin, bête sûr, tav probable, puis une lacune d'une lettre, puis ensuite, wav clair et dalet presque certain. À mon avis, quand il y aurait suffisamment de la lettre comme ça, on pourrait presque la considérer comme certain. Et dès lors, quand il manque une seule lettre, vous savez qu'en tant qu'épigraphiste, je suis très réticent à combler les lacunes, sauf s'il y a vraiment de bonnes raisons. Mais une lettre, eh bien, c'est un problème de probabilité facile à résoudre. Vous avez 22 lettres dans l'alphabet, donc dans l'alphabet moabite comme dans l'alphabet hébreu, et donc vous pouvez essayer les 22 lettres pour savoir qu'est-ce qui peut donner un sens à l'expression. Et donc, quand on fait cet exercice-là, on s'aperçoit qu'il n'y a pratiquement qu'une seule lettre qui donne un sens, c'est de lire, restituer tout à fait normalement, d'ailleurs il y a la place, là, avant le WAV, entre le BET, les restes du TAV, et ici, c'est cassé, avant le WAV, donc il n'y a place qu'une seule lettre, tout le monde est d'accord aussi pour dire qu'il y a place pour une seule lettre, et de restituer un Dalet, et on obtient l'expression BET David, qui signifie la maison de David, désignant vraisemblablement le royaume de Juda, la dynastie de Jérusalem, régnant en Jérusalem. Et ça va très bien avec le contexte. J'avais déjà proposé ça en 1992, mais depuis, ça semble encore plus évident, cette restitution, depuis qu'on a trouvé en 1993 et publié très rapidement, 1992 publié en 1993, c'est le premier fragment de la stèle araméenne de Tel Dan, où, comme dans la stèle, mais on y reviendra sur cette fragment de Tel Dan, comme dans la stèle de Mesha, on a à la fois la mention d'Israël qui est là, Israël qui est mentionné aussi, bien sûr, vous le savez de façon très claire dans la stèle de Mesha, et on a aussi la mention de Beth David qui est ici tout à fait claire. Dans le premier fragment, confirmé ensuite dans un deuxième deux autres fragments l'année suivante, ce qui donne, ce qui reste malheureusement pas une stèle complète, travailler avec des fragments, c'est quelque chose de connu en épigraphie, c'est bien classique, donc vous avez d'ailleurs le mot Beth David qui a été un peu blanchi pour vous aider à bien l'identifier dans la stèle. Et là, la lecture, Beth Yud Tav Dalet Vav Dalet, et va très bien avec le contexte, mentionnant le roi d'Israël et le roi de Juda. Donc, personnellement, même si elle est pratiquement, d'ailleurs, quand j'ai regardé la bibliographie, elle n'est pas tout à fait admise par tout le monde. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que il y a toujours des divergences, un petit peu. Mais disons, par la plupart des commentateurs postérieurs, en particulier, on a cité Manfred Weiper tout à l'heure, pour lequel j'ai beaucoup de respect, et j'espère qu'il pourra guérir et un jour qu'on sera à nouveau parmi nous, eh bien, lui l'a accepté dans son magnifique livre « Historisches Handbuch », qui est fait plus de 1000 pages, si je me rappelle bien, avec tous les textes du Proche-Orient, qui est vraiment une très bonne référence. Donc, personnellement, je pense que la restitution se tient tout à fait. Alors, pour vous donner un petit peu un exemple quand même, pour dire que ce n'est pas tout à fait unanime, qu'il y a toujours un peu de discussion, je citerai Nadav Naaman, qui lui, en fait, restitue exactement les mêmes lettres, sauf qu'il rajoute un « e » pour lire « bête dodo ». Et dodo avec une interprétation historique un peu originale, mais que je ne vais pas développer ici. Je voudrais simplement souligner ici que même si Nadav Naaman n'a pas la même interprétation, matériellement, la lecture matérielle de Bet David, enfin Bet Tav Dalet Wav Dalet, est aussi proposée par Nadav Naaman. Alors, à la fin de la ligne 32, mais là, je vais pas, ça devient trop conjectural, donc je m'arrête ici pour la liste des problèmes épigraphiques, même s'il y en a quelques autres qu'il faudrait traiter. Le principal problème épigraphique de la stèle concerne à la fois la fin des lignes et les lacunes des lignes 32 et 34, et surtout le fait que, justement, la stèle est incomplète, car il lui manque toute sa partie inférieure, dont l'importance est malheureusement difficile à estimer. Outre la fin de ce qui concernait les conquêtes de Mécha contre le royaume de Juda, probablement jusqu'à la mer Morte, cette partie inférieure comportait aussi, probablement, des malédictions, ce qui est classique, contre ceux qui s'attaqueraient à la stèle et à son inscription, les parallèles des inscriptions monumentales. Maintenant, j'aborde le problème chronologique. Eh bien, la stèle a été diversement datée jusqu'ici, surtout soit vers 850 avant notre ère, parce à cause de la mention contemporaine Mécha Akkab, soit vers 840, soit entre 840 et 820. Il faut d'abord noter pour la datation que l'étude paléographique de l'inscription ne permet qu'une datation très approximative dans la deuxième moitié du 9e siècle avant Jésus-Christ, car nous n'avons pas d'autres inscriptions moabites bien datées. On peut seulement, et très approximativement, comparer la paléographie de cette inscription, l'inscription de Mécha, à celle des fragments de Teldan, vous pouvez vous faire la comparaison vous-même, ou encore un petit peu, mais moins bien, avec l'inscription de Kilamouwa, l'inscription phénicienne. L'inscription de Teldan est en araméen, et l'inscription de Kilamouwa est en phénicien. Toutes deux datent de la deuxième moitié du 9e siècle, peut-être plus précisément vers 830-810 avant notre ère. Si l'on veut essayer d'être plus précis pour dater la stèle de Mécha, il faut partir du texte lui-même de l'inscription. D'après les lignes 5 et 6, il est clair que, en tant que roi de Moab, Yamai, dans mes jours, Mécha a été un moment, combien de temps, ça on ne le dit pas, un moment contemporain du fils d'Omri, Akkab, roi d'Israël. Et on sait que celui-ci est mort vers 853 avant notre ère. Donc le règne de Mécha a dû commencer soit en 853, soit au moins un peu avant. Ensuite, au début de la ligne 7, Mécha affirme qu'il a joui de la mort d'Akkab, c'est-à-dire qu'il lui a survécu. Bien plus, on nous dit qu'il a joui aussi de la disparition de la maison d'Akkab. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est probablement une référence au coup d'État de Jéhu en 841 qui a massacré toute la descendance d'Akkab avec quelque chose qui nous est raconté en détail dans la Bible, dans le deuxième livre des Rois. Il reste une autre indication que l'on mentionne beaucoup plus rarement, et même pratiquement presque jamais, mais qui me paraît importante, c'est qu'à la ligne 7, on nous précise que Israël abode, abad, olam, et Israël a péri à jamais. Or, indiquer qu'un pays a pratiquement disparu, pour dire ça, il faut une situation catastrophique. Et quand on cherche dans la partie un petit peu de l'histoire de l'ancien Israël, je n'ai pas amené mon petit que sais-je, parce que, mais vous pouvez vous y référer, eh bien, on sait que dans la deuxième moitié du IXe siècle, il y a eu une période catastrophique, indiquée d'ailleurs par la Bible elle-même, sous le roi du successeur de Jéhu, Yoahaz. Je vous cite ici le texte du deuxième livre des rois, chapitre 13, verset 3, verset 7b et 22, qui montre bien, très bien cela. Et vous savez, en historien, quand on travaille en historien, quand il y a quelqu'un qui vous dit que la situation dans mon pays a été catastrophique, alors qu'on a tendance à se vanter un petit peu de victoire, quitte à les grossir, ça veut dire probablement qu'il y a vraiment eu quelque chose de catastrophique. Et vous le texte vous-même, vous l'avez sous les yeux. Ce que je voudrais souligner, c'est que non seulement on nous dit que Israël a été livré aux mains de Hazael, roi d'Aram. Ah, tiens, vient apparaître quelqu'un qui n'est pas mentionné dans la stèle, mais qui a probablement joué un rôle historique très important à l'époque de Mécha. Et ensuite, il nous dit le roi d'Aram, c'est-à-dire Hazael, les avait, en parlant des Israélites, les avait fait périr. Ibdam, c'est-à-dire qu'on a le même verbe, abod, abad, olam, qui est décrit dans la stèle, qui est utilisé ici, sauf qu'on nous dit là que, l'acte d'anéantissement a été provoqué par Hazael, non pas par Mécha. On nous dit qui a provoqué l'anéantissement d'Israël, alors que la stèle ne précise pas que Israël a été d'abord battu par Hazael. Et dans la Bible, on nous exprime ça très fortement, puisqu'on nous dit qu'il les avait réduits à de la poussière qu'on foule aux pieds, et Hazael, roi d'Aram, opprima Israël tous les jours de Yoahaz. Donc, si on peut naturellement rapprocher la mention de Israël a péri à jamais de cette mention dans le livre des rois qui indique que la situation pour le royaume d'Israël a été catastrophique tous les jours du règne de Yoahaz. Alors maintenant, il y a un petit problème chronologique. La chronologie des rois d'Israël n'est pas tout à fait assurée, mais en général, on peut situer approximativement le règne de Yoahaz vers 814-803, d'où une proposition, en arrondissant un petit peu, de dater cette mention de Israël a péri à jamais de 810 avant notre ère. Alors vous allez me dire, il y a un petit problème, ça signifie quand même qu'on il a commencé à régner avant 853 et il va jusqu'en 810, ça fait un long règne. Alors les longs règnes, ça existe dans l'histoire. Je ne citerai pas le règne contemporain de la reine Élisabeth, je ne sais plus d'ailleurs combien elle en est, c'est 60 ou 70, ni de l'empereur Hirohito il y a encore quelques années. Ou plus près, je citerai le roi Hussein, qui a quand même régné assez longtemps, même si c'est quelque chose qui est dans la région. Donc, le fait qu'il y ait des règnes d'une bonne quarantaine d'années, c'est tout à fait possible. On a aussi, d'ailleurs, dans la tradition des rois de Juda, des rois de Jérusalem, quelques-uns, comme Manassé, qui sont dit avoir régné une cinquantaine d'années, une bonne cinquantaine d'années. Ce qui est clair, c'est que si on donne une longueur de règne d'environ 853, peut-être avant 853, donc un peu plus peut-être, et jusqu'à environ 810, tout ça, c'est approximatif, hein, c'est pas, faut pas le prendre au pied de la lettre. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à peu près contemporain du règne du roi Hazael de Damas, 842 à 805. Et c'est quelque chose que j'avais étudié autrefois et qui maintenant est très étudié, l'importance du règne de Hazael qui a construit un véritable empire, a dominé toute la Syrie-Palestine dans la deuxième moitié du IXe siècle, une fois que les Assyriens se sont écartés. Donc, il va être temps que je m'arrête. Juste un autre, je vous ai mentionné les rois d'Israël qui se sont succédés pendant ce temps-là, et aussi la mention du prophète Élisée, mais là, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Alors, il y a la question, je reviens sur la question qui a souvent été débattue, c'est qu'on a le récit de Deux Rois Trois et on a le récit de guerre de Mécha dans la celle de Mécha. Eh bien, il y a des problèmes, il y a des tas de problèmes, il y a des contradictions, et ça a donné lieu à des tas de commentaires différents. On a souvent dit qu'il s'agit plus ou moins de deux phases différentes d'une même guerre, soit en disant que le règne de Mécha, les guerres de Mécha dans la stèle sont postérieures à Deux Rois III, soit l'inverse. Personnellement, je crois que quand on regarde objectivement un petit peu les indications de chacune de ces récits de guerre, d'évocations de guerre, on s'aperçoit que ce sont probablement deux guerres différentes. Et plus précisément, lorsqu'on essaie de faire ça du point de vue de la chronologie, deux guerres à une vingtaine d'années de différence. La première guerre, celle de Deux Rois Trois, apparaît tout à fait lorsque Mécha décide de ne plus payer le tribut. Donc, il réussit finalement à résister aux armées, mais il a dû résister, il était sur la défensive. C'est une guerre défensive d'indépendance, en quelque sorte. C'est la guerre d'indépendance où Mécha réussit à affirmer son indépendance. Désormais, il ne paiera plus le tribut au roi d'Israël. Deuxième guerre, par contre, celle qui est évoquée dans la stèle, alors là, c'est clairement une guerre offensive d'expansion contre Jéhu d'Israël et surtout, et aussi Joas, Juda, probablement vers 830 ou un petit peu après, à partir du moment où l'Empire néo-assyrien, les armées néo-assyriennes n'interviennent plus dans le sud du Levant. Alors, je n'insiste pas, ce point-là va être à nouveau discuté, mais c'est quelque chose, je crois, qui, du point de vue chronologique, aide à mieux comprendre et évacue le problème des contradictions entre le récit de Deux Rois Trois et le récit, les évocations d'une guerre dans la stèle de Mécha. Au total, même si certains problèmes épigraphiques, philologiques et chronologiques demeurent, en particulier malheureusement l'absence de la finale de l'inscription, une datation de la stèle vers 810 avant notre ère et une meilleure appréciation du contexte historique régional jette une nouvelle lumière sur l'interprétation de ce monument capital pour l'histoire du sud du Levant au IXe siècle avant notre ère. Merci de votre attention.